Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc Menant et aujourd'hui le chapitre 44, Louis-Philippe, le dernier roi. À quoi ressemblait la France à cette époque, sous ce dernier roi? On va parler de l'été 1830 et les Trois Glorieuses, on parlera de la personnalité de ce roi des Français et pas de roi de France. Et puis on parlera des conspirations contre lui, on parlera des Républicains, de la mort du duc d'Orléans. Voilà le programme pour cette émission, c'est parti. Bonjour, ravi de vous retrouver messieurs, mon cher Marc,
et
mon cher
Franck. Nous sommes ravis également. J'avais envie de dire l'impératrice, mais ce n'était pas de saison. Là.
Oh. Non,
là, c'est la reine des Français.
La reine.
Ça ne lui va pas mal non plus.
Mais ça lui va très bien.
De vous, tout me va, tout me convient, vraiment mes garçons. Alors, justement, mon cher Franck, on va commencer par cet été 1830 avec la Révolution des Trois Glorieuses. C'était du 27 au 29 juillet 1830. Qu'est-ce qui s'est-il passé concrètement? Parce que tout a basculé.
Vous vous rappelez, la dernière fois, nous parlions de ce roi Charles X, qui était le plus jeune frère du roi Louis XVI, et qui était devenu roi très tard, en 1824, dernier roi de France sacré en 1825. Or, ce Charles X, qui était, moi je l'aime bien, c'était un personnage que je trouve assez pittoresque, assez sympathique, mais il était profondément réactionnaire. Et il était entouré de toute une coterie.
Ça cause à effet.
Que je l'aime bien parce qu'il est réactionnaire. Je laisse à Marc Menant et à ses amis la responsabilité de leurs propos.
On a bien noté que vous l'aimiez moins.
En tout cas, Charles X, se croyant se porter par la victoire récente de la prise d'Alger, vous savez, on était en pleine conquête de l'Algérie à l'époque, va pousser vers un régime très autoritaire, et notamment des lois qui sont jugées liberticides, des lois contre la presse. Ça met Paris dans la rue, les libéraux sont là, qui activent les choses, bien entendu, mais il n'y a pas que les libéraux. Il y a tous les bonapartistes, évidemment, qui, depuis quelques années, ont perdu leur grand homme, mais qui n'ont pas perdu leur cause. Il y a, bien sûr, les républicains, purs et durs, qui se rappellent le souvenir de la glorieuse révolution, etc., etc. Tous ces gens-là vont monter des barricades. Le roi Charles X ne leur oppose pas une grande résistance. Le voilà qui s'enfuit dans un premier temps à Saint-Cloud, puis de Saint-Cloud à Rambouillet. Et puis ça y est, on part pour l'Angleterre. Et de l'Angleterre, il finira sa vie aux confins de l'Autriche. Nous aurons peut-être d'ailleurs l'occasion d'en reparler. En attendant, que se passe-t-il à Paris? Eh bien, c'est une révolution qui ne va pas durer longtemps. Plus rien à voir avec la grande révolution de 1789-1799. Hein, 10 ans de révolution. Là, ça va durer 3 jours. 27, 28 et 29 juillet 1830. On les appelle les trois glorieuses journées, hein, les trois glorieuses. Et ces trois glorieuses, eh bien, elles vont offrir aux libéraux, aux républicains, un espoir considérable.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été aussi rapide?
Ça a été rapide parce que les gens étaient à bout. Parce que le régime ultra de Charles X n'avait plus d'assises dans l'opinion, en tout cas dans l'opinion parisienne. Il faut toujours faire la distinction, vous savez, entre la capitale et les provinces. Mais en tout cas, à Paris, on n'en pouvait plus de cette monarchie. Il se trouve qu'assez vite, donc, les quartiers nord, les quartiers est s'embrasent le 27 juillet. Dès le lendemain, 28 juillet, on voit les gardes nationaux qui fraternisent avec les insurgés. Les gardes nationaux, c'est la milice bourgeoise de Paris, c'est l'essentiel des troupes disponibles. Autant dire qu'à partir du moment où ils ne sont plus là pour faire régner l'ordre, il n'y a plus d'ordre. Le 29, les Parisiens vont aller s'emparer du Palais Bourbon, où siège la Chambre des députés. On essaie de sauver comme on peut un régime qui, de toute façon, n'est pas sauvable. Et le 31 juillet, le duc d'Orléans, qui est le cousin de Charles X, vous rappelez ces deux branches de la maison de Bourbon, le duc d'Orléans, qui est le fils de Philippe Égalité, le duc d'Orléans qui s'est battu, nous allons le voir dans un instant, pendant la Révolution.
Égalité, rappelons celui qui a voté
la mort du roi.
Donc,
c'est une famille, une lignée régicide, vous imaginez. Ce duc d'Orléans est approché par un certain nombre de personnalités libérales, et notamment par Lafayette. On va le voir monter sur son plus beau cheval qui quitter son palais royal, hein, qui est sa résidence à Paris, pour se rendre à l'hôtel de ville, l'accolade avec, avec Lafayette. Et ça y est, il accepte de devenir non pas roi de France par la grâce de Dieu, lui va devenir plus modestement roi des Français par la grâce d'une charte, d'une constitution, si vous voulez, une charte qui a été profondément modifiée par rapport à celle de 1814, mais qui reste une charte quand même relativement modérée, avec un suffrage censitaire, etc. On y viendra dans un instant. Toujours est-il qu'il y a maintenant un nouveau régime. Ceux qui pensaient que la République allait s'instaurer, ceux qui espéraient qu'un successeur de Napoléon vienne au pouvoir, en sont pour leurs frais, puisque c'est donc un roi, le cousin de Charles X, qui devient le roi des Français, Louis-Philippe Ier. Évidemment, c'est pour lui un défi considérable. Est-ce qu'il va être capable de le garder, ce pouvoir? En spoilant un peu, je vous dirais qu'il va le garder 18 ans quand même.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'est-ce qui lui a permis de garder ce pouvoir pendant 18 ans, Louis-Philippe, le roi citoyen. Qui était-il? Quelle était sa personnalité? Où a-t-il pris ses forces, son éducation pour pouvoir tenir, justement, dans ce moment plutôt improvisé de l'histoire?
Pour moi, c'est l'un des personnages qui a la plus belle envergure intellectuelle. Je le mets avec son grand-oncle, le duc d'Orléans, celui qui avait été le régent. Ce sont des gens qui brillent par cette intelligence, une vivacité d'esprit, une audace. Et je dirais également, ce sont des personnes qui ont un charisme qui aussitôt fait adhérer ceux qui les approchent. C'est assez incroyable. Alors, le parcours de cet homme, là encore, c'est un roman.
Ah oui.
On taquinerait la plume avec délice, rien que de raconter cet enfant.
Ça mériterait de le faire, parce que je regardais la dernière biographie de Louis-Philippe, elle remonte à 1994, j'ai envie de dire, avis aux amateurs, et notamment à vous,
cher. Oh. Non, mais c'est vrai. Alors, enfance avec Madame de Genlis, on a...
Madame de Genlis qui était l'incarnation même des vertus de l'ancienne cour royale de Versailles.
Oui, mais alors...
à Versailles lui-même.
Mais,
d'ailleurs,
hein. Il fait toute sa jeunesse à Versailles. Mais là encore, cette femme a un sens de la pédagogie novateur et qui ne peut que lever, je dirais, et faire en sorte que les neurones soient dans une brillance inimaginable. Alors... au moment de la Révolution, il est derrière son père. Ce père qui s'est enflammé pour ses idées nouvelles. Il trouve ça formidable. Et il est tellement brillant qu'il obtient un commandement dans l'armée nouvelle, celle de la Révolution. Il va briller à Valmy. Il va briller à Gemaps. Il est à côté de Dumouriez. Et on le remarque. On se dit que ce garçon-là... Pardon, Franck.
Oui, il y a juste une petite anecdote qui me revient là quand Marc raconte ça, qui est la rencontre avec Danton. Incroyable, c'est Gosselin le Nôtre qui raconte ça, c'est un des plus jolis chapitres de Gosselin le Nôtre, ce jeune duc de Chartres, parce qu'à l'époque il est duc de Chartres, qui débarque, alors on l'appelle plus duc, hein, et inutile de vous dire qu'on est dans la toute nouvelle république, on l'appelle Chartres tout court, et il débarque dans le bureau de Danton qui lui dit « on va vous donner un commandement mon garçon », c'est tout à fait incroyable.
Mais simplement parce qu'il représente, je dirais, ceux qui adhèrent alors qu'ils étaient de l'aristocratie, mais aux idées nouvelles. Et pour Danton, qui est l'homme de la synthèse, il n'a pas ce côté radical de Robespierre. Il faut arriver à unifier la France avec des personnages comme ce Chartres. Bon, malheureusement, il suivra Dumouriez et il est condamné à l'exil. Ça va durer 20 ans, il va en Suisse, il court le monde, aux États-Unis. Il est condamné parfois à faire des métiers qui ne correspondent surtout pas à son statut. Il aboutit en Angleterre et il est vrai qu'il se sent bien en Angleterre. Il y a une fascination pour nos aïeux, pour cette terre qui a fait germer quand même l'esprit d'indépendance dans les idées, quelles qu'elles soient. Et il attend, quand son cousin Louis XVIII est sur le trône, il attend, il voudrait bien revenir, lui. Oh ben, Louis XVIII n'a pas envie de le voir émerger, et il est obligé
et le fils de
régicide. Voilà, le fils de régicide, on ne l'aime pas. En revanche, Charles X se montrera extrêmement conciliant, il aura même un titre, il retrouve la dignité. Et puis ensuite, c'est ce que Franck nous a raconté. Alors, que fait-il lorsqu'il est installé sur cette place? Eh bien, ce n'est pas une royauté telle qu'on a pu la connaître. C'est la royauté bourgeoise. Notons que c'est un homme extrêmement riche. Il a récupéré toute la fortune de sa famille. Il a un joli mariage avec Marie-Amélie, ils ont 8 enfants. Ils s'adorent, et les enfants, ils les bichonnent, ils leur susurrent à l'oreille, ils cherchent à les émerveiller. C'est un homme du bâtiment, c'est un homme du progrès.
Et fidèle.
Ah bah, il est d'une fidélité époustouflante.
C'est rare, il faut le souligner quand même, mon cher.
Ah ben non, ben vous, ça vous intéresse. Ben,
voilà. Quand même.
Alors, il est amoureux de sa femme.
Non, mais c'est bien, non, mais c'est quand même bien de le souligner.
Non, mais
il n'a pas, il n'a pas de maîtresse officielle. Il a quand même fait des enfants ailleurs dans
le
pays.
Non, mais oui, non, mais il n'a pas de maîtresse officielle. Une fois qu'il est marié, on peut dire que véritablement, c'est l'homme d'un cœur. Voilà. Et il fait en sorte que ses enfants s'enchantent au quotidien. Même s'il ne s'attendait pas à aboutir un jour sur le trône. Alors, comment gouverne-t-il ? Le matin, on se lève à 7 heures. Il n'y a pas de domestique à côté, point de laquais, non, non. Il prend ses affaires sous le bras, il va se planter devant le miroir où là apparaît Richard. Ah, Richard, c'est son coiffeur. Parce que sa grande élégance, c'est le toupet. Le joli petit toupet, il faut qu'il soit bien, bien mis en place. C'est son rayonnement qui passe par là. Peut-être estime-t-il non seulement se distinguer, mais presque créer une mode. Une fois que cela est terminé, il y a la lecture des journaux. Alors vous allez dire, ça paraît normal, savoir exactement ce qui se passe dans son royaume. Mais non, pas enfin, dans son royaume, en France, car ce n'est plus son royaume.
Bah, c'est quand même
son royaume. Oui, mais enfin bon, c'est difficile de situer, parce qu'il n'a pas cette appartenance, il est quand même surveillé plus que ses prédécesseurs. Toujours est-il que ce sont les journaux anglais, et en particulier le Time. Alors un jour, Victor Hugo, qui le côtoie, il l'appelle de temps en temps, il adore les beaux esprits. Et il lui dit, oui, je lis, quand Victor Hugo s'étonne de ne pas voir de journaux français, il dit, mais il y a ceux qui me vilipendent, et puis il y a ceux qui m'encensent. Des deux côtés, je n'y apprendrai rien. Tandis que, vu de l'Angleterre, ça me donne un avis sur ce qui se passe dans notre nation. Vous voyez, c'est très intéressant. Il a un verbe. Quand vous lisez « Choses vues » de Victor Hugo, les manières de s'exprimer de ce roi, vous avez l'impression qu'il est le jaillissement de la poésie, un prince en rhétorique. Une fois que les journaux ont été lus, eh bien, paf, le petit déjeuner, riz à l'eau, également un échaudé. Qu'est-ce qu'un échaudé ? C'est un petit biscuit. Et puis, un verre d'eau. Voilà le repas. De cet instant, il appelle M. Fontaine. M. Fontaine, c'est un architecte qui a brillé.
Du temps de Napoléon, déjà.
Du temps de Napoléon, il s'est fait remarquer. Et ensemble, ils cheminent dans la rue, bras dessus, bras dessus. Il adore ce genre de geste de familiarité. Il est extrêmement chaleureux et ça lui permet de courtiser ceux qui n'ont pas chaleur. Ils vont comme ça sur les chantiers. Ils saluent les ouvriers, les responsables du chantier. Ils monte les échelles, revient les vêtements tout blancs. Simplement, il cherche à comprendre comment les édifices sont en train de se hérisser. Et il s'appelle, il aime bien le côté, je suis le roi de la truelle. Vous savez, la truelle, ce qui est l'outil du maçon. De là, on retourne, on se nettoie rapidement, on ne se pomponne pas véritablement. Et c'est le Conseil des ministres. Alors, au Conseil des ministres, ils s'installent, ils sont tous autour de lui, et ne croyez pas qu'il dorme, il a une feuille de papier, il dessine des visages d'hommes ou de femmes, et il dira à Victor Hugo, toujours qui est un peu son confident d'une certaine façon, il dira, ces gens-là ne sont pas capables d'attention pendant une heure. Et quand il s'aperçoit qu'ils ne sont plus dans la tonicité du discours et des échanges d'idées, il les rappelle à l'ordre. Ensuite, eh bien, on fait les bobinettes. Allons faire les bobinettes. C'est l'instant qu'il s'accorde avec sa famille. Et à ses côtés, il y a sa sœur, Madame Reine, c'est Mademoiselle Adélaïde. Il ne peut pas prendre une décision sans avoir l'avis de Mademoiselle Adélaïde.
Vraiment, son alter ego.
Voilà.
Mademoiselle Adélaïde joue un rôle absolument essentiel.
Extraordinaire. Malheureusement, il la perdra, il en aura un extrême chagrin. Ensuite, il y a la fameuse promenade dont les uns et les autres se gaussent encore aujourd'hui. Il part, petit bourgeois, avec son parapluie sur le doigt.
On pourrait dire grand bourgeois, là.
Ouais. Son petit chapeau, ça fait penser à Brel, vous savez, il met son petit chapeau sur la tête, etc. Il chemine, il salue les gens, il essaie de ne pas se faire reconnaître, mais d'avoir une sorte de température des mentalités. Est-ce que les gens se sentent bien ? Il ne doit pas rencontrer ceux qui sont les stigmates, je dirais, de son régime, parce que sinon, il serait très inquiet de constater que c'est une population qui souffre. Et puis le soir, vous avez le dîner, et quand tout est terminé, le travail solitaire. Et là encore, il confie à Victor Hugo, « Je ne peux me plaindre, mais je suis bien obligé de me rendre compte que les ministres ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Il y a comment se faire admettre par les trônes d'Europe, être reconnu et faire en sorte que l'on insuffle un esprit de paix. Quand il rencontre les gens, je vous l'ai dit volontiers, il se prend les personnes sous le bras et il demande à Oudard, qui est un peu son secrétaire, il lui dit « Oudard, vous avez les fiches ?» Et il a eu les fiches. Donc, il sait quand il se présente devant la dame qui a un grand chapeau, c'est madame. Comment vont vos enfants ? Vous savez, il a ce sens du commandement, mais un commandement où on obtient obligatoirement l'adhésion, l'amour des autres. Et ça, il le manifeste en permanence. On peut dire donc qu'il a la capacité d'être aimé. Et pour autant, il y aura la rupture. Pourquoi ? Bah parce que les ministres sont ceux qui prennent les décisions. C'est un gouvernement où les banquiers mènent la danse. Et pour le peuple, c'est la misère. On va évoquer avec Franck toutes les crises qu'il doit traverser et qui aboutiront au bout de 18 ans à la chute. Je dis simplement ce qui s'est passé. Bien et puis, sûr. Il y aura aussi les attentats. Et ça, Franck nous en parlera.
Je peux Franck, le parler des attentats. Un règne agité et contesté.
Il va venir s'installer là.
Alors, le 28 juillet 1835, non mais Marc a tout dit. Alors, parlez-nous des attentats.
Oui, dire un mot peut-être aussi.
J'avais fait un lancement, mais je prends le vôtre.
De cette dimension familiale de Louis-Philippe, hein, c'est absolument fondamental. C'est vrai qu'il aime sa femme et c'est réciproque, même si la reine Marie-Amélie, qui est évidemment elle-même descendante de cette longue lignée des Bourbons, n'a jamais considéré très au sérieux ce titre de roi des Français ou de reine des Français. Elle a l'impression elle-même qu'elle est une usurpatrice et que son mari est un usurpateur. Et elle n'est pas la seule à le penser, puisque dans la haute aristocratie, non seulement de France, mais de l'Europe entière, c'est un peu ce qu'on pense aussi. Et puis, c'est vrai qu'il y a toute cette ribambelle d'enfants, parce qu'ils ont eu hein, cette extraordinaire famille. Exactement.
Filles.
Et alors, tous ces princes, joint Nemours, joint Ville, enfin tous les princes et toutes ces jeunes filles extraordinaires, dont une est une artiste de renom, hein, Marie d'Orléans. On les voit là, regardez, devant les grilles du château de Versailles pour l'inauguration des galeries historiques de Versailles en juin 1837. C'est un tableau d'Horace Vernet assez célèbre. Bref, toute cette famille incarne en quelque sorte une sorte de France assise, repue, confortable, bourgeoise. C'est cette notion-là que le parapluie du roi citoyen incarne d'une certaine manière. Alors, il incarne, lui, la monarchie selon la charte. C'est comme ça qu'il présente les choses. Hein. Cette monarchie selon la charte, elle ne fait pas l'unanimité dans le faubourg Saint-Germain, inutile de vous dire, on parle de régime abject. Des gens comme Chateaubriand sont vent debout, évidemment, contre ce régime considéré comme usurpateur. Mais surtout, dites-vous que la révolution de 1830, elle a été faite par des artisans républicains, par des officiers bonapartistes, par des avocats libéraux, que tous ces gens-là attendaient un vrai régime républicain et libéral. Et qu'il se retrouve avec une monarchie d'une certaine façon. Donc il va falloir constamment que Louis-Philippe navigue entre, d'un côté, les forces de droite, les bonapartistes, les légitimistes qui ne veulent pas entendre parler de lui, et de l'autre côté, les forces de gauche, c'est-à-dire les républicains, les libéraux. C'est compliqué tout ça. Et il y a au sein même de sa propre majorité deux tendances. Un parti qu'on appelle le parti de la résistance et un parti qu'on appelle le parti du mouvement. Alors, il va donner dans un premier temps la présidence du Conseil, c'est la naissance du titre d'ailleurs. Il va la donner à un grand banquier qui est Laffitte, homme passionnant, Lafitte, assez extravagant, plein de bonne volonté libérale, si l'on peut dire. Mais enfin, ça s'arrête quand même aux limites de la pure décence, inutile de vous dire, ça ne va pas très très loin. Et puis, lorsque Lafitte est arrivé au bout, quand je dis au bout, le plus qu'il ait réussi à faire, c'est élargir le suffrage censitaire aux capacités pour des élections municipales.
Qu'est-ce qu'on appelle peut-être les... le côté...
Oui. Alors, le suffrage censitaire, ça veut dire qu'il faut payer un certain niveau d'impôt pour avoir le droit de vote. C'est 100 000 personnes, hein, c'est pas extraordinaire. Alors là, on va augmenter quand même ce suffrage censitaire pour élargir le corps électoral à 200 000 électeurs. Oh là là, sur 30 millions de Français, vous voyez. Et ce qu'on appelle les capacités, ce sont les gens qui ont des grands diplômes universitaires, etc., qui, n'ayant pas la fortune, ont la capacité intellectuelle. Alors eux, ils ont le droit de voter seulement aux élections municipales. Vous voyez, tout ça est quand même modéré. Bref. Quand le parti du mouvement a fait son temps, Louis-Philippe va nommer un grand Premier ministre, enfin président du Conseil, du parti de la Résistance. Alors la Résistance, ça veut dire la résistance au changement. Un petit peu le conservatisme, si vous voulez. Mais on appelle ça le parti de la Résistance. Et là, c'est Casimir Perrier, qui est un grand bonhomme, un Premier ministre protestant, extrême, avec un esprit très réaliste, très clair, brillant administrateur, incontestablement, mais qui n'empêche pas la rébellion de Couvet, et notamment dans les milieux républicains. Il va y avoir 3 attentats au début du règne, 7 attentats par la suite, et entre les deux, si je puis dire, on est en 1835, on est le 28 juillet, l'attentat de Fieschi. Alors celui-là, on en parle parce que, évidemment, il faut avoir vu aux Archives nationales la célèbre machine de Fieschi. Hein, c'est à l'hôtel de Soubise qu'on voit ça. C'est une espèce de machine extrêmement compliquée. C'est une sorte de bombe à retardement, si vous voulez, avec des canons de projection. Et on a installé cette machine infernale sur le boulevard du Temple. C'est Giuseppe Fieschi donc qui l'a conçue et installée, cette machine. C'est un ancien soldat de Napoléon. Et le roi arrive, le roi des Français, arrive pour une parade militaire pour célébrer l'anniversaire de la Révolution des Trois Glorieuses. Hein. On est, je vous l'ai dit, le 28 juillet. Et baf, la machine explose. 18 morts, je crois, et
28 morts, 22 blessés.
22 blessés, voilà. Bon.
En tout cas, le général Mortier.
Dont le général Mortier, absolument.
Et un général de Napoléon.
Et ça va permettre, évidemment, à ceux qui sont pour la méthode forte, de renforcer la répression à ce moment-là. Mais les attentats ne sont pas finis. Moins d'un an plus tard, pour vous donner un exemple, c'est un républicain qui s'appelle Louis Alibaud, qui va attendre le roi et la reine au guichet du Louvre, vous voyez, donc tout, vraiment à la sortie du palais des Tuileries où il réside, du côté de la Seine, hein, du côté du pont du Louvre, pont du Carrousel. Et à ce moment-là, la voiture, qui est pourtant une voiture blindée, hein, parce que Louis-Philippe avait repris, après l'attentat de Fieschi, il avait repris la voiture blindée qui avait déjà servi du temps de l'empereur Napoléon Ier. Eh bien, ils sont dans la voiture blindée, simplement il y a là tout un peloton de gardes nationaux qui rendent les armes, et le roi, par politesse, se penche à la fenêtre pour les saluer. Il n'aurait pas dû se pencher à la fenêtre. Un coup de feu, la balle passe tout près de lui, ça lui défait le toupet, là, dont parlait Marc, et vient se ficher dans le plafond du carrosse, hein, donc, etc.
Plusieurs
etc.
dizaines, hein, d'attentats.
Pas plusieurs dizaines,
d'attentats.
Mais il y aura 7 grands attentats encore après cela.
Il y en a eu 18 en tout, c'est ça?
Oui. Comme il est contre la peine de mort, il a ce côté très humaniste. Dans certains cas, il accorde la grâce. Oui. Même pour Fieschi, oui. Il regrette, il dit « je ne pouvais pas » dans ce cas-là, parce que...
Il avait grand cœur.
Oui, voilà, il trouvait que le sang ne pouvait pas couler simplement parce qu'on l'avait menacé.
Bon, c'est incroyable, parce qu'on est quand même 46 ans après 1789,
et, oui.
Et tout est encore tiraillé, déchiré.
Ah ben ce siècle, et alors là, si on descend dans la rue, ce sont les agitations permanente.
À Paris, à Paris.
À Paris, mais après à Lyon aussi.
Avec les canuts.
À Lyon avec les canuts.
Alors,
et là, vous avez des centaines de morts. C'est que la répression, elle est
belle. C'est fou quand même.
Le massacre de la rue Transnonain, c'est pas...
Bah, la rue Transnonain, avec Bugeaud, qui fait tirer sur le peuple. Au numéro 12, il passe, il y a un coup de feu qui est tiré, on investit tout l'immeuble et on charcute des enfants aux vieillards. Il n'y a pas un seul survivant, simplement pour que l'ordre soit maintenu. Voilà, c'est le côté du général Bugeaud.
On va faire une petite pause. On se revoit dans quelques minutes seulement pour cette deuxième partie de Louis-Philippe, le dernier roi. On va parler de... Je vais vous poser cette question. Pourquoi les Français de 1840 se passionnent-ils pour l'histoire? Hugo, Dumas, Vigny, on en parle dans un instant. À tout à l'heure.
Rendez-vous avec Christine Kelly pour La Belle Histoire de France, dimanche de 12h à 13h.
Retour sur le plateau de La Belle Histoire de France avec ce chapitre 44, Louis-Philippe, le dernier roi, avec Marc Menant et Franck Ferrand qui sont avec nous et qui nous passionnent pour l'histoire de France. C'est génial parce que là, on va essayer de voir comment ce dernier roi a permis... A réussi à trouver l'équilibre finalement pendant 18 ans.
Il y a un projet conciliateur de la monarchie de Juillet. Le but même du roi et de ses grands ministres, on va parler de Guizot et de Thiers dans un instant, leur but c'est de mettre tout le monde d'accord, c'est de réconcilier tous les Français.
Impossible,
c'est le grand projet.
Impossible, un grand projet quand même. Alors j'ai une question pour vous messieurs,
oui.
ce que je disais tout à l'heure. Hugo, Dumas, Vigny, pourquoi les Français de 1840 se passionnent-ils pour l'histoire?
Alors déjà, je pense que c'est l'héritage des Lumières qui a pu s'épanouir depuis la Révolution. Et on a la chance d'être à un moment où de grandes plumes, Chateaubriand, Hugo, Vigny, etc. Vous avez Dumas.
Et Lamartine.
Lamartine. Vous avez,
Alfred de Musset.
Alfred de Musset. Vous avez Balzac, etc. Vous rendez compte cette prospérité de l'esprit qui est là et qui anime les salons. Sur le plan intellectuel, il y a des lieux où je dirais qu'on est presque dans l'acmé de l'expression du génie français.
Et puis c'est l'époque de Delacroix en peinture,
voilà.
C'est l'époque de Berlioz en musique, c'est ce qu'on appelle l'époque romantique. Et c'est peut-être la réponse à votre question, Christine, c'est peut-être ce romantisme-là qui est très tourné vers le passé, notamment vers le Moyen-Âge. On vient de redécouvrir, avec Arcis de Caumont, avec Mérimée, etc., on vient de redécouvrir les monuments du Moyen-Âge, les églises qu'on appelait gothiques en général à l'époque, et on est en train de se passionner, c'est la première fois. Avant, on intéressé en gros au présent, au futur, et puis quand on parlait du passé, c'était l'Antiquité vraiment. Là, on s'intéresse de façon quasi archéologique au passé national. C'est une naissance, c'est un courant qui porte un nom qu'on appelle l'historicisme. Et évidemment, vous pouvez faire confiance à des opportunistes de la plume comme peuvent l'être Alexandre Dumas ou Victor Hugo pour en faire des pièces de théâtre, de grands drames romantiques qui vont faire vibrer les riches heures de l'histoire.
Il y a une sorte d'aiguillon, je dirais. Ils se portent les uns les autres, l'émulation, et ces gens-là se côtoient. Et ils organisent les pièces de Victor Hugo. Oui, pardon.
Un petit mot, parce que là, on vient de voir Victor Hugo avec une grosse barbe blanche.
Oui.
Ça, c'est le Victor Hugo de la fin de sa vie,
oui,
dans les années 1880.
Oui.
En 1840, il était beaucoup plus
séduisant que ça. Mais on le reconnaît bien quand même. On a vu Alexandre Dumas aussi.
Alors, on organise la claque. Oui. C'est-à-dire que les matchs de foot de l'époque, ce sont les pièces de théâtre. Quand il y a une première, on s'arrange pour que ses propres fans soient là. Les autres, au contraire, qui veulent nuire, ils braillent. Et c'est dans cette ambiance inouïe que les mots jaillissent et que sans doute les uns et les autres font en sorte qu'ils scintillent avec le plus d'efficacité.
Oui, Philippe a un grand projet. Il veut réconcilier tous les Français et il a une idée. Puisqu'il déteste ce château de Versailles où a été humiliée sa famille du temps de l'ancienne monarchie.
Projet.
Vous savez que les Orléans, on faisait tout pour bien montrer aux cousins Orléans qu'ils n'étaient pas grand-chose. C'était toute la politique de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Bon. Et comme il détestait ce château de Versailles et surtout qu'il ne savait plus quoi en faire, il a eu l'idée d'en faire sa chose et de transformer ce qui avait été une grande résidence royale
en
un musée de l'histoire de France.
Exceptionnelle décision.
À toutes les gloires de la France. Et donc, il va commander des peintures au kilomètre. Certaines très réussies, d'autres nettement moins, peu importe.
Allez, c'est le problème du kilomètre.
Il va commander à tous les peintres possibles et imaginables des centaines de tableaux pour évoquer toutes les périodes de l'histoire de France. Et on va faire une salle des croisades pour faire plaisir aux légitimistes. On va faire une salle de 1792 pour faire plaisir. Et bien sûr, on le montre, lui, jeune duc de Chartres, à la bataille de Valmy. Et puis, on va faire une salle, bien sûr, plus pas une, mais tout un ensemble de salles sur la saga impériale pour faire plaisir aux bonapartistes. Et Louis-Philippe inaugure ça en juin 1837.
En grande pompe.
Alors,
tout le monde était là.
On peut dire que c'est là.
L'Europe
le
était
plus
là.
Beau jour. Toute l'Europe est là.
Incroyable.
Et dans une même voiture sont venus Balzac, Hugo
Et on aurait aimé vivre
Dumas,
ce moment.
Vous imaginez, dans la même voiture. C'est tout à fait incroyable ce qui se passe. C'est le plus beau jour de la monarchie de Juillet. Ce jour de juin 1837, Louis-Philippe a pu croire qu'il avait réussi son projet. Malheureusement, les choses vont retourner mal par la suite.
Oui, mais parce que je crois que le peuple est trop malheureux. Le peuple souffre tôt.
Ça dépend
que
le peuple.
Il ne meurt pas de faim. On commence à travailler à 5 ans. On a 18 heures par semaine, 18 heures par jour. Il n'y a pas de jour de repos. On vit dans des galetas entassés, sans commodité. On crève littéralement.
C'est la population française. C'est une toute petite partie qui est le prolétariat ouvrier.
C'est bien de la cibler quand même.
C'est comme une grande partie du peuple et c'est ce peuple-là. Ce sont ceux-là qui vont organiser des grèves. Ce sont ceux-là qui créent des mouvements.
Ceux qui organisent les grèves, ce sont surtout des artisans qui mangent tout à fait à leur faim, mais qui veulent autre chose politiquement.
J'adore quand vous n'êtes pas d'accord, parce que ça nous construit.
J'insiste quand même, il faut reprendre, on dit à 25 ans, les membres de ce prolétariat étaient des vieillards. Donc après, quand on dit on n'a jamais vécu aussi vieux, à cet âge-là, on tombait comme des mouches à 30 ans, parce qu'on avait été usé dès l'âge de 5 ans.
Encore une fois, une petite proportion de la population.
Ce qu'il faut
bien comprendre, c'est que la monarchie de Juillet, au contraire quand même, pour l'immense majorité de la population, est une période de prospérité où l'on mange bien. C'est important de le dire.
Non, mais le prolétariat constitue quand même la plus grande partie de la masse.
Messieurs,
en population.
Est-ce que c'est pas, on parlait de l'histoire, est-ce que c'est pas le seul... moment où la France a été dirigée par des historiens?
Alors, ça c'est passionnant.
Ah, ben là je vous mets d'accord.
on en dira un mot tout à l'heure. Deux grands historiens que sont Thiers et Guizot, bien sûr.
Bon, alors on en parlera tout à l'heure. Pardon, c'était juste pour vous mettre d'accord et pour vous voir sourire tous les deux. Mais on va parler d'un...
On se frappera pas, on s'aime trop.
Oui, je sais. On va parler quand même d'un moment capital, la mort du duc d'Orléans. C'était le jour de mon anniversaire, le 13 juillet, mais c'était en 1842.
Avis à tous les téléspectateurs, vous saurez quoi faire le 13 juillet prochain.
Il y a un événement donc, qui va considérablement marquer l'époque, c'est la disparition tragique du duc d'Orléans.
Oui, alors moi, pour tout vous dire, c'est là que sur cette émission, je ne suis pas d'accord avec Marc, c'est vrai. Moi, je suis beaucoup moins... Moi, je n'aime pas autant Louis-Philippe que lui. Je suis beaucoup, beaucoup plus critique envers le personnage. En revanche,
Ne reprenez pas le débat.
C'est fondamental. Je pense que la population française, à ce moment-là, a connu un moment relativement... Alors, en tout cas, toute la paysannerie, la population des villes, les artisans, etc., on vit durement parce que c'est l'époque qui vit durement. Mais ce n'est pas un régime qui soit mauvais sur un plan économique.
On vous en juge tous les deux. La mort du duc d'Orléans.
Oui, mais c'est ça. C'est ce dont je veux parler. Et en revanche, c'est un régime qui est relativement ferme, quand je dis relativement, qui est très ferme sur un plan politique. Et c'est là qu'est peut-être le problème. Avec ces ministres dont nous avons parlé, avec un petit peu Lafitte et puis surtout Casimir Perier, on va voir ce qu'il en est d'Adolphe Thiers, qui n'est pas un tendre du tout non plus, et Guizot non plus, à sa manière. Donc tous ces gens-là, évidemment, ont tendance à pousser le roi vers une forme de réaction, d'une certaine manière. Or, ce qui est très étonnant, c'est que Louis-Philippe lui-même, parce qu'il a un esprit de contradiction, après tout, il est né au mois d'octobre, c'est peut-être son côté balance, mais il a un esprit de contradiction qui fait qu'il va toujours contre le mouvement majoritaire, d'une certaine manière. Et on va voir le roi, à mesure qu'avancera
centriste,
le règne. Oui, il est vraiment centriste.
Voilà.
Il est centriste dans les sens, Louis-Philippe.
Oui, c'est ça.
Et on va voir, à mesure que le règne s'avance, on va voir le roi se mettre à lutter littéralement contre ce qu'on appelait le cabinet, même si en vérité il est tenu, ce roi-là. Vous avez bien compris que ce n'est plus du tout un roi absolu par la grâce de Dieu. C'est quand même lui, j'aime bien l'expression, il disait c'est moi qui tiens le fiacre, c'est moi qui mène le fiacre. Voilà l'expression exacte. J'aime bien l'expression. Mais... c'est bien Louis-Philippe qui gouvernait la France. C'est la différence avec le régime britannique qu'il admirait tant et où c'est le Parlement et l'émanation du Parlement, de la majorité, c'est-à-dire le gouvernement qui gère la politique britannique, le souverain n'étant là que pour faire bien. Ce n'est pas le cas en France, c'est quand même le roi qui gouverne. Alors, ce roi, il agace une partie importante de la population qui voudrait libéraliser, qui voudrait ouvrir, qui voudrait desserrer les taux. Et ces gens-là, ils ont un espoir qui est le fils aîné du roi, Ferdinand, qui est duc d'Orléans. Et ce duc d'Orléans, qui a épousé Hélène de Mecklembourg-Schwerin, grand mariage, les grandes fêtes de 1837 dont je vous parlais, étaient la prolongation même des fêtes du mariage, ce duc d'Orléans est un esprit ouvert, grand ami des écrivains, grand ami des avocats libéraux. Bref, on se dit, si un jour il succède à son père, or Louis-Philippe commence à avoir un certain âge, il est né en 1773, donc on se dit, il va avoir 70 ans, si un jour il succède à son père, alors oui, je pense que nous aurons une vraie monarchie libérale et peut-être, se disent certains, une monarchie à l'anglaise. Et voilà qu'un jour, ce duc d'Orléans, on est donc en juillet, vous l'avez dit, le 13 juillet de cette année 1842, il va se rendre prendre son commandement militaire à Saint-Omer. Donc, il va partir en garnison pour un certain temps, pour plusieurs mois. Et comme on fait dans ces cas-là, il quitte Paris, il habite au Palais Royal. Il quitte Paris pour se rendre à Neuilly, où se trouve la résidence secondaire de ses parents. Le roi et la reine passent l'essentiel de leur temps à Neuilly. En vérité, ils sont très peu aux Tuileries. Et donc, il part pour Neuilly pour les saluer, les embrasser, leur dire au revoir. Et puis, nous nous retrouvons dans quelques mois. Il prend sa voiture et il a la surprise en arrivant dans la cour de voir qu'on a préparé, vous savez, il fallait atteler à l'époque, hein, on a attelé une petite voiture découverte, ce qu'on appelle un landau. Ça énerve beaucoup le prince parce qu'il sait qu'il va être à la vue de tout le monde et que, évidemment, en traversant les rues de Paris, il y a beaucoup de gens qui vont le reconnaître, qui vont le saluer. Il faut qu'il enlève son chapeau, qu'il salue tout le monde. Il aurait été plus à l'aise dans un petit tilbury bien fermé, vous voyez. Mais peu importe. Le voilà qui part. Il faut dire qu'il fait tellement beau. Et fouette cochée, il se rend bien compte qu'il y a un des chevaux qui est très nerveux, qui est bizarre. Il conduit lui-même sa voiture, un peu comme son père qui se promène avec son parapluie sous le bras dans Paris. Vous voyez, c'est ce côté bon enfant de cette famille d'Orléans. Et le voilà parti et arrivé à ce qui est aujourd'hui. Alors à l'époque, on est derrière la porte des Ternes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la porte Maillot. Vous savez, il y a le périphérique qui passe là. Arrivé à cet endroit-là, le cheval fait une embardée. Le landau. Et renversé, et le prince est projeté, et il va heurter du front le pavé parisien. Il se trouve qu'il y a justement une borne de granit à cet endroit-là, ça peut pas s'inventer, mais c'est comme ça. Vite, on le transporte chez l'épicier voisin. Il y en a des épiciers, vous savez, la monarchie de Juillet, c'est le régime de l'épicier, disait Balzac. Ben là, il y a justement un épicier, effectivement, on le transporte là, il est déjà sans connaissance, on va essayer de le ranimer, on fait tout ce qu'on veut. Mais le prince se meurt, le prince est mort. Et voilà que cet héritier, auquel tout le monde tenait tant, voilà cet héritier qui incarnait justement une chance de sortir des difficultés du règne de son père, voilà que cet héritier n'est plus. Et comme le dit très justement André Mauroy, en parlant notamment de Victor Hugo, qui avait beaucoup d'espoir, qui plaçait tous ses espoirs dans le duc et la duchesse d'Orléans, en espérant qu'un jour il deviendrait le roi et la reine des Français, sa mort, la mort du prince, ne leur laissait plus personne à aimer. Et ça a été des cérémonies funèbres extraordinaires. C'est le poète allemand Heinrich Heine, vous savez, qui raconte « Jamais la mort d'un homme n'a causé de deuil si général », dit-il. C'est une chose remarquable qu'en France, où la Révolution n'a pas encore discontinué de fermenter, l'amour d'un prince ait pu jeter de si profondes racines et se manifester de manière si touchante. On dit que la population entière a pleuré la mort de ce duc d'Orléans. C'est Alfred de Musset, qui connaissait bien Ferdinand, qui en était même un ami, si l'on peut être l'ami d'un prince héritier, qui disait « Une heure a détourné tout un siècle ». Oui, c'en est fini des espoirs de la monarchie de Juillet. Le nouveau prince héritier s'appelle le duc de Nemours. Alors lui, c'est pas un rigolo. C'est un homme très pur et dur, très conservateur, dont on sait qu'il n'a aucune sympathie pour les libéraux. Et l'on se dit qu'il pourrait devenir un successeur dangereux pour Louis-Philippe au lieu d'être un successeur salutaire.
Mais il y en a un qui est en embuscade et qui représente le parti bonapartiste.
Ah oui, c'est très juste de le dire.
C'est Louis.
C'est le neveu de Napoléon
voilà
Ier.
Voilà, le futur Napoléon III, par deux fois déjà. Il a tenté l'aventure du pouvoir.
Et à Boulogne, voilà. Des coups d'État qui ont manqué. Il a carrément été mis en prison, d'ailleurs, au fort de Ham.
C'est l'histoire, on la racontera. Oui, oui. On la racontera. Bon, la vie au fort de Ham de Napoléon III.
Les garçons, qu'est-ce qu'on parle dans cette émission? Le temps avance. Alors, je vous propose maintenant de passer à l'opposition. L'opposition sur les républicains à gauche,
oui,
notamment,
bien sûr.
À Louis-Philippe, on en parle. Et puis leur chef de file à cette opposition, les républicains à gauche, c'était Ledru Rollin.
Oui, un avocat, jeune garçon brillant, il a le verbe acerbe, il fait partie, vous voyez, on aurait pu le classer parmi les historiens, le classer oui, parmi les écrivains. C'est un homme d'une très 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 grande envergure, qui fait très attention, il est à gauche, mais vraiment à gauche, c'est un radical, un homme qui voudrait que le peuple puisse quand même profiter de cette modernité qui est en train d'irradier la France. Parce que c'est vrai que les chemins de fer commencent à naître. Oui. C'est-à-dire qu'on a du mal à bien comprendre, mais c'est le siècle, les années de la transition. Il y a l'avant, où on était dans un monde, je dirais, rustique. Et là, on entre dans le monde...
Le début de la révolution industrielle.
Voilà. Bientôt vont scintiller les lampes électriques. Tout le progrès dont on bénéficie au quotidien, c'est sous cette époque. Et donc, Le Drurelin sera l'un des grands opposants. Il rencontrera sur son parcours un autre homme, dont moi j'adore la plume. Franck, là encore, on n'est pas très d'accord. C'est Lamartine. Et ce Lamartine, eh bien, entre au contact de Le Drurelin et ensemble, ils seront les grands agitateurs qui aboutiront.
De la révolution de 1848, dont on va parler la prochaine fois. Cette révolution qui naît en février 1848 à la suite de l'interdiction d'un grand banquet républicain. Pourquoi banquet républicain? Parce qu'on n'avait pas le droit de faire de réunions politiques. Alors on faisait des banquets. Et puis pendant qu'on était à table, comme ça durait des heures, eh bien on parlait politique, bien entendu. Et on faisait, voyez, un peu ce genre de... Alors ce sont des banquets républicains un peu plus tardifs, hein, du début de la Troisième République, mais qui vous donnent quand même une idée de ce que ça pouvait être. Ça fait du monde, quand même. Ça fait du monde.
Et ça permettait de faire courir les idées, si je puis dire, de les nourrir en tant que telles.
Contre les grands ministres de l'époque, les présidents du Conseil, que sont notamment, hein, pour simplifier, puisqu'il faudrait entrer dans tous les détails, mais ces deux grandes figures qui sont effectivement deux grands historiens qui ont beaucoup travaillé, notamment sur la Révolution française, que sont Adolphe Thiers. Et on retrouvera Adolphe Thiers plus tard au moment de l'effondrement de 1870, de l'effondrement du Second Empire. Le petit monsieur Thiers, hein, qui était un petit Marseillais, il était tout, tout, tout petit. Un jour, il était à la tribune de la Chambre, il avait oublié son crayon. Et quelqu'un a dit « Monsieur Thiers, vous oubliez votre canne ». Ça vous donne une
idée. Et puis l'autre, c'est François Guizot, bien sûr. Oui, et Guizot qui crée l'école publique. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'à cette époque-là, les pauvres mômes... Je vous ai dit, très tôt, dès 5 ans, ils sont au travail. Eh bien là, il y a ces écoles publiques qui leur seront proposées. Et ça ouvre aussi la guerre de l'école. Car ce ne sont plus les curés qui tiennent l'éducation.
Plus seulement.
Hein, voilà. Après, il y aura la fameuse loi Fallou, d'ailleurs, pour défendre l'institution religieuse dans le domaine de l'éducation.
Formidable. Et donc, c'est vrai que Guizot...
En un mot, le bilan. Oui, le bilan de la monarchie de juillet.
D'un côté, Guizot défend effectivement l'école, etc. D'un autre, il faut dire que c'est la grande politique capitalisme. Voilà. On est à la naissance non seulement de la révolution industrielle, avec le chemin de fer, avec la machine à vapeur, avec le charbon qui se généralise partout, mais on est aussi à la naissance du capitalisme français. Et il y a la célèbre phrase de Guizot qui a été complètement sortie de son contexte, « Enrichissez-vous », mais ça traduit quand même bien l'état d'esprit de cette monarchie de juillet où il fallait faire de l'argent globalement. Et vous savez que pour avoir le droit de voter, de toute façon, il fallait faire de l'argent. Et puis l'autre, c'est donc Thiers qui est celui qui va finir l'Arc de Triomphe d'un certain point de vue, qui va conseiller à Louis-Philippe de faire revenir les cendres de l'empereur, les cendres de Napoléon en 1840.
Très grand moment.
Ce Thiers qui est l'homme des monuments, d'une certaine manière. Tous ces gens-là travaillent, nous aurait dit Balzac, pour l'épicier. La France devient plus prospère, elle devient plus moderne, elle devient plus apaisée malgré tout. Il n'empêche que ça n'est pas suffisant pour tous ceux qui rêvent d'une véritable liberté. Ce qui manque à ce régime de Louis-Philippe, c'est tout simplement la liberté.
10 secondes sur le bilan de la monarchie de Louis-Philippe pendant ses 18 ans.
Donc, c'est vrai, tout ce que Franck vient de décrire reste, moi je pense, j'insiste là-dessus, il y a quand même toute une partie de la population qui est en souffrance. Et ça, c'est le bourgeonnement potentiel
qui est sous-jacent.
Voilà. Un mot de la diplomatie, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est la fin de la conquête de l'Algérie, et c'est là que vont s'illustrer les fils de Louis-Philippe, et notamment le prince de Joinville. On aura peut-être l'occasion de le recroiser dans le futur. Donc, conquête de l'Algérie, qui ennuie beaucoup l'Angleterre. On essaie de maintenir une entente cordiale avec l'Angleterre. Oui, oui. C'est ce qui explique qu'au moment où les Belges veulent leur indépendance, ce n'est pas un des fils de Louis-Philippe, ce n'est pas le duc de Nemours qui devient roi des Belges, c'est Léopold de Saxe-Cobourg qui va, c'est vrai, épouser la fille aînée de Louis-Philippe, Louise. Elle sera la première reine des Belges. Il faudrait entrer un peu plus en détail dans la diplomatie. Sachez en tout cas que Louis-Philippe était obsédé par la paix. Merci. Et que pour l'essentiel, il l'a faite.
Ah oui, c'était vraiment un centriste.
Une petite... Travailler le soir pour obtenir la paix, je vous l'ai dit. Il la forgeait tout seul formidable. Dans son cabinet.
Non mais formidable, hein. C'était une belle période quand même. Alors, petite fiche de révision. Portée au pouvoir à l'été 1830 par la révolution des Trois Glorieuses, Louis-Philippe n'est pas roi de France mais roi des Français. Oui. Ses présidents du Conseil, Lafitte, Casimir Perrier, Guizotière, naviguent entre la double opposition des réactionnaires et des libéraux. Et puis après la mort du duc d'Orléans le 13 juillet 1842, le régime s'essouffle et peine à résister à la pression républicaine à gauche. La monarchie de juillet est une parenthèse prospère, mais figée dans l'histoire agitée du 19e siècle.
Quel les bon élève, cette Christine.
Ah, 10 sur 10, youpi.
On va lui en mettre un 19,5, allez.
Oh, merci. Alors, chose vue de Victor Hugo, ah, c'est oui, le livre ah, que oui. vous proposez.
Ah, oui, ah, oui. Ah, oui, là, vous aurez un vrai portrait, vous serez dans l'intimité, vous passerez des soirées avec Louis-Philippe et pas que, puisque c'est le quotidien de Victor Hugo qui est là.
Formidable. Et puis la monarchie de juillet de Gabriel de Breuil.
Eh oui, il faut dire que la famille de Breuil a partie liée avec la monarchie de juillet. Gabriel de Breuil a fait une grande partie de son œuvre sur cette période. Et il a écrit effectivement ce beau livre sur la monarchie de juillet, tout simplement.
Merci, mon cher Franck. Merci, mon cher Marc. Formidable émission. Fin de celle-ci la semaine prochaine. 1848, le printemps des peuples. À la semaine prochaine.
Rendez-vous avec Christine Kelly pour La Belle Histoire de France, dimanche de 12h à 13h.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.